Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes de retour sur l'antenne. Comme vous l'avez remarqué, on était déjà présent il y a 15 jours, le mardi 13, et nous sommes le mardi 27. Puisque, un petit rappel, nous avons décidé de passer à deux émissions mensuelles à la place d'une seule. Donc, effectivement, la fréquence de nos interventions sur l'antenne de Principe Actif est doublée. Voilà, donc avec moi ce soir à l'émission, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Jaël.
Bonsoir.
Il y a Ronan qui est en train de terminer ses préparatifs techniques.
Bonsoir.
Ça va, tu t'y retrouves ?
Impeccable, tout est prêt.
Bon. Et moi-même, Ronan, tu me dis ?
DJ.
Voilà, merci. Donc ce soir, nous allons développer un assez long dossier sur une campagne qui reprend une actualité brûlante, qui est la campagne réfugiée. Pourquoi ? C'est parce que, enfin, on va y revenir tout à l'heure, mais Amnesty International a décidé de mener une campagne mondiale, non pas simplement sur l'Europe et ce qui s'y passe, mais une campagne mondiale qui commence là au début octobre et qui va durer 2 ans, minimum 2 ans, pour rappeler à tous les États à travers le monde leurs obligations en termes d'accueil et de défense des droits des réfugiés. Parce que la crise des réfugiés ne va qu'en s'aggravant au fil du temps et que ça devient effectivement un problème mondial et un problème assez catastrophique. Donc on va vous présenter cette campagne. Et puis il y a Sabine et Edith, merci, vont vous parler de la Syrie. Il y a Jaël qui nous vient de République démocratique du Congo et qui va vous parler de l'actualité malheureusement assez dramatique et les atteintes aux droits humains également en République démocratique du Congo. Il y a Ronan qui va vous parler de bonnes nouvelles, comme il en a l'habitude, parce que c'est important.
Oh, il a l'air un peu colère aujourd'hui.
Oui, il a l'air un peu colère, oui.
Il n'y a peut-être pas que des bonnes nouvelles.
Voilà, parce qu'en fait, il nous a dit avant l'émission qu'il avait l'intention de créer une nouvelle rubrique. C'est bien, parce que comme on a 2 fois plus d'antennes, on crée des rubriques. Autrefois, c'était Mina qui avait créé sa rubrique culturelle, mais elle ne peut pas être là à chaque fois. Il y a Ronan qui a décidé de faire une rubrique coup de gueule dans ce qu'il met en colère par rapport à ce qu'il entend à droite et à gauche.
Son coup de gueule à lui ce soir.
Ce soir, c'est à moi, mais les autres émissions, ça
donc,
fait quelqu'un.
Là, vous n'avez pas l'image, mais déjà, Ronan, il est apoplectique tellement il est en colère. Là, donc, il a. Voilà. Donc,
il fume.
Bien, vous inquiétez
il
pas.
Fume.
Bon.
Un petit mot
d'introduction, comme on a pris un peu l'habitude de le faire. Je voulais donc, comme on va consacrer une bonne partie de l'émission au problème des réfugiés, je voulais vous dire effectivement des choses, moi aussi, qui m'ont mis un petit peu en colère, enfin même beaucoup ces derniers temps, par rapport à tout ce qu'on entend sur on peut pas, toujours pareil, on peut pas,
chose qu'on va on peut pas accueillir tout
voilà,
le monde.
Voilà, qu'on va démonter dans nos émissions, on peut pas accueillir tout le monde, on n'en veut pas, ils ont qu'à se débrouiller chez eux, etc., etc., etc. Et les quelques remarques qui ont été faites par certains responsables politiques, alors je ne vais pas citer de nom parce que bon, on retrouve toujours les mêmes de toute façon. Comme ce député maire qui a dit que quand on était français, on était blanc et chrétien. On peut quand même lui rappeler quand on est français, c'est une nationalité. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie à laquelle qui est le plus grand le fruit du hasard dans laquelle
gaulois,
on est
un
né,
peu gaulois aussi.
Ni la religion qu'on a, qui est une liberté individuelle qui ne regarde que soi-même.
On serait peut-être un peu laïque en France.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc voilà, il y a plein de Français qui sont ni blancs ni chrétiens et qui sont parfaitement français. Donc faut peut-être que ce monsieur effectivement arrête de raconter ce genre d'ineptie. Et puis une autre remarque, ça c'est très récent, j'ai entendu ce midi. Un autre responsable politique.
Est-ce que ça serait ton coup de gueule à toi ?
Coup de gueule, mais je crois que tu es bien parti.
Non, mais enfin, c'est en rapport avec la campagne réfugiée et tout ce qu'on entend. Mais oui, c'est un petit peu aussi un coup de gueule. Mais cette responsable politique qui a dit, j'ai entendu ce midi aux informations, qui a dit que le problème des réfugiés devait être traité, enfin, allait être traité, à parler des pays européens, des pays de l'Union économique européenne, allait être traité comme de la poussière éparpillée dans les différents États. Faut lui rappeler à cette dame, parce que c'était une dame, faut lui rappeler à cette dame que les gens humains, c'est pas de la poussière. et que c'est très typique d'un discours effectivement qui se radicalise. Quand on veut réprimer les gens, on commence, c'était toujours vrai dans l'histoire et partout et sous tous les régimes, quand on veut réprimer les gens, on commence par utiliser des qualificatifs qui leur ôtent le qualificatif d'humain. Donc quand on dit quelqu'un c'est de la poussière, on ne le considère pas comme un être humain. Au Rwanda, on disait par exemple, les Tutsis, enfin les gens qui massacraient les Tutsis ou les Hutus, disaient que c'était des cafards. Inutile de rappeler ce que disaient Hitler et les nazis pendant la guerre par rapport aux juifs, etc., etc. Non, madame, ces gens-là, ce ne sont pas de la poussière, ce sont des êtres humains. Et ils sont aussi respectables que vous l'êtes vous-même. Donc, elle ne m'entendra pas, je ne pense pas, mais ce sont des propos qui sont effectivement déplorables. Il y a aussi un autre politique très connu qui a dit que, ça vous l'avez tous entendu, qui a dit aussi que quand on devenait français, on avait des ancêtres gaulois.
C'est rigolo, ça.
C'est balèze. Moi, je pense que.
Je ne sais pas s'il y a des Gaulois en Hongrie. Voilà.
Moi, je pense que je peux remonter dans ma généalogie personnelle et je ne pense pas qu'on ait grand chose à faire avec les Gaulois.
En Espagne, il n'y a pas de Gaulois.
J'ai entendu quand même un historien.
Pas s'il y en a, mais ils sont acceptés s'il y en a.
Voilà. J'ai entendu un historien qui a quand même dit que. Qui était très juste, qui a quand même dit que le fait de dire que les Français, c'était la Gaule, c'était une invention historique de la fin du 19e siècle dans les manuels scolaires pour un peu harmoniser les choses. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et il y a un tas de gens qui sont français qui ne sont absolument pas gaulois. Donc ce monsieur-là, il a aussi tout faux. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on entend des propos qui deviennent de plus en plus difficiles à supporter et que les coups de gueule avec Ronan et moi-même, on risque de peut-être les multiplier dans les émissions qui viennent. Bon, j'en ai déjà trop dit. Donc Sabine et Edith, vous nous parlez d'un autre sujet.
Enfin, pendant qu'on dit des inepties, on ne parle pas de choses sérieuses.
Oui.
Dont ils
devraient
parler.
Voilà, et oui, tout à fait. C'est très juste. C'est très juste. Ils feraient mieux de faire leur travail,
absolument,
en gros.
Et surtout, éviter de croire et de colporter tout ça. Voilà, c'est-à-dire, gardons un peu de sens de réflexion. Et là, tout de suite, on a l'impression qu'on essaye de nous l'enlever un peu notre réflexion.
Et comment c'est vite déformé aussi.
Et voilà,
on parle
d'un soyez truc. Critique.
Et de critique, de libre arbitre.
Moi, j'entends des trucs tous les jours, c'est vrai que c'est déformé d'une façon.
Bah, c'est peut-être aussi notre sens de notre présence sur Principe
Actif.
Voilà,
et ne croyez
radio,
pas tout ce qu'il y a sur le net, sur Internet, sur les réseaux
choses.
Sociaux.
Avant de parler dans le vide, il faut se renseigner.
Voilà.
Ramener les choses à leur juste valeur.
Bon, ça va, on est tous en train de faire nos coups de gueule. Là. Allez, si on passe à notre actualité.
On est tous d'accord.
Amnistienne.
On va aller faire un tour en prison.
Oui, là, c'est pas une actualité très, très gaie. Là, je crois que la dernière émission, nous n'étions pas là, Sabine et moi, mais Claire Lise a parlé de la situation des réfugiés à Évreux. C'est aussi quelque chose de très qui nous prend à cœur vraiment, et aussi de la campagne par rapport à la Syrie. Et là, on va vous parler particulièrement avec Sabine de ce qui se passe en Syrie, mais ce n'est pas actuel. Là, c'est une catastrophe, la Syrie, c'est une barbarie, c'est tout ce qu'on veut. Mais cette situation de disparition et d'emprisonnement date depuis déjà des années et des années sous le régime du président Bachar al-Assad. Et c'est vraiment quelque chose de terrible.
Ça ne s'arrange pas. Donc depuis 2011... On estime que plus de 17 000 personnes sont mortes dans les prisons et les centres de détention syriens. Celles qui ont survécu ont dû faire des choses inimaginables pour rester en vie. Donc on va aborder plusieurs témoignages. Et en partenariat avec une équipe de spécialistes, le Forensic Architecture, nous avons créé une reconstruction. Enfin, ils ont créé une reconstruction 3D de la prison de Saïd Naya. À partir d'outils de modélisation acoustique et architecturale, ainsi que des descriptions faites par d'anciens détenus. Cette reconstruction illustre le quotidien effroyable des prisonniers. Les techniques de modélisation 3D et les souvenirs de ceux qui ont survécu aux très graves violences qui leur ont été infligées nous permettent pour la première fois d'entrevoir ce qui se passe réellement dans l'un des centres de torture et de détention les plus tristement célèbres en Syrie. Une peur qui ne les quitte pas, survivre à la torture dans une prison syrienne.
Alors, Cette modélisation, on peut la voir sur le site d'Amnesty. Donc avec les témoignages, ils ont réussi à reconstituer la prison et même à reconstituer les épaissures des murs. Enfin, savoir, parce que c'est tellement secret et tellement... Il y a une telle peur dans ce régime que toutes les personnes qui sont passées depuis des années dans cette prison et les rares qui ont pu en sortir ont accepté de témoigner, même si c'était très douloureux, pour pouvoir qu'on en arrive après à imaginer. Et je vais vous lire la lettre d'un militant qui a vécu 20 mois à Saïdnaya, donc l'une des prisons les plus violentes de Syrie. Aujourd'hui, il est encore détenu, mais dans une autre prison. Et il a écrit cette lettre pour tenter de décrire l'enfer quotidien qu'il a traversé. À qui de droit ? Ce que je m'apprête à écrire n'est pas une fiction ni un appel à la compassion. Depuis nos sombres sous-sols, où le soleil n'atteint jamais, nous élevons nos voix et cherchons un écho. Nous vous appelons à faire cesser l'hémorragie des vies, celle des jeunes hommes et femmes de Syrie, à éteindre le feu qui consume leur jeunesse dans les prisons et les centres de détention du président Bachar el-Assad. Ils n'y sont pas à leur place. Ils ne sont pas nés seulement pour être un bout de papier aux mains de Bachar el-Assad et de son régime dictatorial, ni un bout de bois dans le feu que celui-ci entretient avec de la haine et un esprit de vengeance, uniquement parce que nous avons rêvé d'une nation digne qui protège nos droits. J'écris pour vous rappeler les milliers d'âmes qui ont été perdues et qui le sont toujours, pour vous dire que notre dignité est bafouée, que les homicides gratuits sont partout, dans le moindre atome de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, du bâton du gardien de prison qui dévore ce qui reste de notre peau et de nos os, de nos corps faibles et amaigris. Les mots me manquent pour décrire notre enfer où chaque jour s'achève par la mort de l'un d'entre nous, enveloppé dans une couverture. Ce lieu où nous avons le choix entre une mort rapide aux mains d'un interrogateur qui n'aime pas nos réponses ou une mort lente dans une cage qui consume lentement notre corps. La torture généralisée est systématique. La peur ne nous quitte pas, même à notre sortie de prison. La peur de devoir retourner à Saïdnaya. La peur pour les nouveaux arrivants, pour les amis que nous avons laissés là-bas. La peur des sons des portes métalliques et celle des cris. Cette peur ne me quitte pas jusqu'à ce que je m'endorme. La peur de nos transferts vers le tribunal. La peur du froid, des maladies, de la faim, qui n'est comparable à aucune autre faim. Nous survivons en mangeant des coquilles d'œufs, des pelures d'orange si nous en trouvons, et même de la terre. Nous avons été mis à l'épreuve d'une faim insoutenable. La nourriture est jetée devant nous, mais nous ne pouvons pas prendre, ne serait-ce qu'une miette de pain. Nous n'osons pas la toucher, car la punition qui s'ensuit dépend de l'humeur du gardien. Nous avons été mis à l'épreuve de la soif, jusqu'à ce que nos lèvres se collent et que nous ne puissions plus les séparer. Puis nous avons vu comment nous allions mourir si nous nous plaignions d'être malades ou si nous demandions un médicament. Nos corps flétrissent et sont submergés par la maladie. Quiconque est préservé de la tuberculose ne l'est pas de la diarrhée, de la gale ou des abcès. Nous avons fait nos adieux à de nombreux amis et nous avons attendu que ce soit notre tour à tout moment. Parfois, nous avons appelé la mort de nos vœux, car nous voyons en elle une issue. Nous avons traversé tout cela sans que personne ne sache où nous nous trouvions, souffrant dans le froid des nuits de Saïdnaya, et sans que personne n'entende nos cris provoqués par des coups de fouet meurtrissant nos corps. Une nouvelle vie m'a été offerte lorsque j'ai été transférée de Saïdnaya vers une autre prison. Je vous demande donc, en mon nom et au nom de mes amis qui sont détenus, de déployer tous les efforts possibles pour recourir toutes les personnes détenues. Je vous demande aussi d'arrêter ce régime criminel qui nous maintient encore, nous et nos amis, dans des centres de détention pendant 5 années consécutives. 5 années de douleur indescriptible. Une douleur qui ne s'en va pas, quelqu'un qui est toujours détenu. Cette lettre a été transmise à Amnesty par des militants de Save the Rest, une campagne syrienne de défense des droits humains dont le travail se concentre plus particulièrement sur la détention arbitraire et les disparitions forcées. Alors, on est désolé, on va un peu plus enfoncer le clou parce que c'est tellement horrible ce qui se passe là-bas qu'avec Sabine, on va vous lire un peu des commentaires d'anciens détenus pour expliquer ce qu'ils vivent chacun.
Oui, des entretiens qui ont été réalisés par d'anciens détenus début 2016. Cacher ses problèmes de santé. Lors de la fête de bienvenue, des gardiens nous ont demandé à tous si nous étions malades. J'ai alors pensé qu'il vaudrait mieux leur expliquer que l'un de mes reins était abîmé pour être bien traité. Ils ont d'abord posé la question à mon ami qui a répondu « Oui, j'ai des problèmes de respiration. Je souffre d'asthme. » Un gardien a répliqué « D'accord, tu es un cas particulier. » Et ils ont commencé à le frapper jusqu'à ce qu'il meure, juste devant moi. Quand mon tour est venu, j'ai dit que j'étais en très bonne santé.
Rester impassible. Je devais m'asseoir là et regarder les gardiens passer les détenus masculins à tabac pendant une heure. Ils les frappaient avec différents objets, un tuyau d'arrosage, une barre en silicone ou une barre de fer terminée par une boule hérissée de clous. Les trois premières fois que j'ai... Oh, attendez, ne bougez pas.
Edith a perdu le fil de son papier.
J'ai perdu la deuxième partie de la feuille. Que j'ai dû assister,
voilà.
Excusez-moi,
c'est pas
à
grave.
Ce spectacle, j'ai pleuré. Mais les gardiens me frappaient. Nous devions rester totalement impassibles pendant toute l'heure. Je me disais que ce n'était pas réel, qu'il s'agissait d'un film d'horreur qui allait se terminer une quinzaine de minutes plus tard.
Conserver la chaleur. En hiver, il faisait très froid. Nous réunissions donc nos couvertures pour faire une sorte de cocon et conserver ainsi notre chaleur. Nous n'avions que les vêtements que nous portions le jour de notre arrestation. Les prisonniers arrêtés en été se trouvaient donc dans une situation très difficile.
Devenir une famille. Les autres prisonniers deviennent plus que des frères. On ne peut pas trouver une telle proximité dans la vie. Dehors, on pourrait ne jamais être d'accord, ou même se haïr. Mais dans la prison, on est une famille. Un prisonnier partisan de la laïcité et un musulman sunnite très pieux peuvent devenir les meilleurs amis du monde. Nous partageons tout, même nos vêtements, et nous aidons ceux qui pleurent et ou perdent la raison.
Oublier. En prison, la seule manière d'arrêter le temps est de penser à sa famille, à ses amis. Mais on apprend à s'en détacher. J'ai commencé à oublier. J'ai complètement oublié le visage de mes amis à l'université. Puis j'ai oublié tous les visages des dernières années. Je suis remontée de plus en plus loin, jusqu'à me souvenir uniquement du visage de ma mère quand j'étais jeune.
Manger n'importe quoi. Quand je suis arrivée, ils nous ont donné une caisse d'oranges et une caisse de concombres. Nous avons épluché les oranges et nous avons jeté les écorces sur le sol. Les autres prisonniers se sont jetés dessus. Ils trouvaient ces écorces délicieuses, un véritable trésor. Nous allions rapidement leur ressembler, mais à ce moment, ça a été un choc. Puis nous avons commencé à manger aussi la coquille des œufs pour le calcium. Nous mettions du riz, de la soupe, des écorces d'orange et des morceaux de coquille d'œuf sur un morceau de pain. Nous avions ainsi l'impression de faire un vrai repas. Ce mélange était dégoûtant, mais d'une certaine manière, il nous a aidés.
Être torturé à tour de rôle. Les gardiens nous demandaient toujours de choisir 5 personnes pour être torturées. Nous nous organisions pour épargner les très jeunes et les vieux. Nous avons formé un groupe constitué des 20 plus forts. 3 d'entre nous étaient presque toujours volontaires. J'en faisais partie parce que j'avais besoin de crier. J'étais inquiet car j'étais devenue insensible. Je ne sentais plus la douleur ni les émotions. Cela semble étrange, mais j'étais volontaire pour la torture, afin d'éprouver de nouveau quelque chose.
Échanger la nourriture. Tout a commencé avec un prisonnier qui, assis dans la cellule, ne pouvait s'arrêter de pleurer. Il m'a expliqué qu'il avait perdu tout espoir de quitter un jour cet endroit. Il me disait « Je n'ai pas faim, je suis affamé. Je ne pense qu'à manger. » Je me suis demandé comment je pourrais l'aider. Nous devions véritablement lutter pour survivre. Si je donnais ma nourriture, je pouvais en mourir. Et si quelqu'un me donnait la sienne, c'est lui qui risquait sa vie. Finalement, ce jour-là, je lui ai donné la moitié de mon morceau de pain et de ma ration de riz. C'est alors que les échanges ont commencé. J'ai dit à cet homme que le prix de mon demi-morceau de pain était un morceau entier, mais qu'il pouvait l'étaler en remboursant sur 4 jours. Nous étions tous affamés dans un état épouvantable. Ces échanges nous ont aidés à survivre. De cette manière, nous pouvions répartir la nourriture en fonction de ceux qui souffraient le plus. Et cela maintenait nos esprits actifs. Nous étions toujours en train d'organiser quelque chose, de résister, d'être humains. Avant cela, nos cerveaux étaient focalisés sur la seule chose, manger, manger, manger. Après, nous pensions à coopérer, à travailler ensemble. Voilà.
Oui, ce sont des témoignages particulièrement bouleversants, effectivement, mais ce que ça inspire aussi, enfin, c'est la réflexion qui me venait en écoutant Edith, c'est que, alors que dans nos pays hindous, il y a toute une tendance à dire effectivement que ces gens-là se débrouillent et qu'on n'est pas concerné, on s'aperçoit que les gens qui sont effectivement dans des conditions aussi d'humanité aussi déplorables, eux, en fait, sont extrêmement solidaires entre eux. Et que voilà, alors qu'ils auraient toutes les raisons effectivement pour faire preuve de beaucoup plus d'égoïsme, et que ce n'est pas le cas. Donc il faut aussi que nous, on se pose des questions sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On va peut-être.
Je fais une petite bonne nouvelle.
Oui, ouais. Ce serait bien parce que effectivement, c'est un peu voilà, c'est un petit peu.
On était dans un témoignage fort, mais il faut aussi.
Il faut aussi écouter les gens parler, gens qui souffrent, il faut les écouter parler.
Voilà une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle et puis on va écouter un peu de musique.
Tout à fait. On va pas trop loin, on reste en France. Les personnes transgenres pourront enfin modifier leur état civil sans avoir à produire d'attestation médicale. C'est une première victoire importante qui va dans le sens d'un meilleur respect de leurs droits, ne pas subir des traitements médicaux lourds, longs et coûteux pour être reconnus juridiquement. La loi adaptée le 12 juillet 2016 entérine définitivement cette avancée.
Oui, c'était une demande d'Amnesty depuis longtemps, effectivement, que les gens qui voulaient changer de sexe n'aient plus de considération médicale à fournir.
Voilà.
On écoute un peu de musique.
You'll be the one who cannot talk. insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Oh, so stars. They're the ones who spit at you.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour sa, son émission bimensuelle. Voilà. Donc
non, mais ce n'était pas International Évreux qu'on a entendu là.
Non, on vient, non pas du tout. Non, c'était, non nous on chante
non,
pas.
Non, on n'est pas encore.
On chante pas, on n'a pas enregistré ça. Un jour, il faudra qu'on chante aussi. On fera l'illustration musicale
pas
nous-mêmes.
Nous, mais
allez faire un mauvais jeu de mots.
On peut peut-être ouais. éviter ça aux éditeurs.
Mais quand il fera pas beau, là, non, là... qu'on sera rentré dans.
Ah, Sabine, elle a déjà fait dans ça avec Mina.
Ah oui.
Oui.
Pour Noël. Oui.
Exactement. Un petit cadeau de Noël. C'était vieux. Ça, dans une émission, vous aviez chanté.
Absolument.
Je me rappelle très bien.
Et donc, c'était un groupe qui a déjà fait des concerts de soutien. Amnesty, un groupe très connu qui s'appelle Radiohead, et le morceau s'appelle High and Dry. Voilà. Donc, maintenant, vous allez entendre quelqu'un qui participe pour la deuxième fois à l'émission. C'est un petit peu intimidé de parler à la radio, mais ça va très bien se passer. C'est Jaël, et Jaël va vous parler de la situation du pays d'où elle vient, la République démocratique du Congo, qui en ce moment vit des moments très difficiles. Et, mais qui va commencer en fait par vous donner déjà une bonne nouvelle sur l'actualité du Congo avant de vous parler de la situation générale. C'est ça, Jaël, hein, tu me dis si c'est pas ça, si j'ai mal compris.
Ah oui, c'est ça. Bon. Il y a une bonne nouvelle par rapport à les membres de l'UTIA qui ont été arrêtés la fois dernière. Et là, comme on a agi pour eux, une décision de la Cour suprême de la justice en RDC. Ils ont permis la libération des 4 militants des droits humains ces derniers jours, qu'ils étaient Fred Boma, Yves Makwambala, Christophe Nkoy et Jean-Marie Kalonge. Et même s'ils sont libérés, mais ils sont toujours en danger. C'est pour cela que nous devons agir pour eux, pour qu'ils ne soient pas en danger. Et à part ça, il y a des nouvelles qui sont un peu tristes, qui... Ça fait mal dans mon pays par rapport à un rapport que nous pouvons dire ça aujourd'hui. Et nous dénonçons les attaques brutales contre les membres des oppositions et la société civile qui demandait le respect de la constitution congolaise et les restrictions à la liberté d'expression, des réunions pacifiques et d'associations dans les pays. Décembre 2016, c'est la date maximale fixée pour la constitution congolaise pour tenir des nouvelles élections présidentielles en RDC. Pourtant, pour des raisons dites techniques, des délais ne seront probablement pas tenus pour l'opposition. Il s'agit d'une manœuvre du président Kabila pour se mentir pour se maintenir au pouvoir. En effet, selon la Constitution, Joseph Kabila ne peut pas se présenter pour une troisième mandat. Mais en mai 2016, la Cour constitutionnelle a jugé qu'il pouvait se maintenir au pouvoir jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Criminalisation de la société civile et de l'opposition. Dans notre rapport intitulé « Démantèlement des descendances », la répression de la liberté d'expression sur fond des retards des élections en République démocratique du Congo. Nous montrons...
On baisse ouais. le micro de Jaël pour bien l'entendre. Oui, voilà.
Nous montrons comme la société civile qui se mobilise pour demander le respect de la Constitution et attaquer les défenseurs des droits humains sont dénigrés comme un patriote travaillant pour des intérêts des étrangers. Les mouvements des jeunes citoyens sont présentés comme étant des groupes insuffisionnels. C'est ainsi que nous nous étions mobilisés pour les membres de l'UTCHA arrêter plusieurs militants comme Fred Beaumont et Yves Makwambala risquent toujours d'être poursuivis et encourant la peine de mort. L'opposition aussi a la cible de la répression du gouvernement. Les responsables politiques ayant quitté la coalition gouvernementale à la suite du désaccord élu au nombre maximum des mandats du président ont été harcelés en victimes préalables en commun économique. À part ça, Moïse Katumbi, homme d'affaires et personnalité politique de premier plan, a été pris pour cible par les autorités peu après avoir déclaré son intention de se présenter aux prochaines élections. Il a ensuite été accusé d'avoir engagé des mercenaires et vendu une maison ne lui appartenait pas. Sa famille a aussi été menacée. Les ministres de la communication, par ailleurs, fermaient deux chaînes de télévision lui appartenaient. Ayant quitté le pays pour raisons médicales, Moïse Katumbi a été condamné par contumace à 3 ans d'emprisonnement et à une mandat d'un montant équivalent de 1 million de dollars des États-Unis en juin 2016. Ainsi, il ne peut plus se présenter aux élections présidentielles et vit toujours en exil. Restriction à la liberté d'expression, de réunion et d'association. Les autorités congolaises se servent les instructions publiques pour empêcher les personnes opposant à maintien au pouvoir du président Kabila s'est organisé et d'exprimer ainsi l'État bafouait les droits aux libertés d'expression, d'association et des réunions pacifiques des personnalités politiques, des opposants et des militants en faveur de leur démocratie, toute exclusion des chercheurs étrangers et menaçant les organisations qui recensaient cette violation. voilà toutes les nouvelles qui se passent dans mon pays.
Voilà, donc oui, ce qui se passe en RDC, c'est que bon, normalement, les élections présidentielles doivent se tenir au mois de décembre et le président Kabila et son gouvernement ont fait tout en sorte pour que rien ne soit prêt pour le mois de décembre. Et maintenant, ils disent effectivement qu'ils sont dans l'obligation de reporter, alors qu'en fait, c'est un report de fait, puisque rien n'a été préparé pour faire.
Tout ce que dit Joël, voilà. Toutes les personnes qui veulent bouger se font
accusées. Voilà. Et ça aboutit à des violences, puisqu'évidemment, les gens qui considèrent que c'est une atteinte fondamentale à la démocratie, sur quoi ils ont parfaitement raison, s'opposent au gouvernement actuel. Et il y a eu, mais ça, je pense que Joël, tu pourrais nous en parler. Parce que tu as des informations. Je rappelle que Jaël, elle est réfugiée venant de République démocratique du Congo, mais qu'elle a toujours de la famille là-bas avec qui elle est en relation. Et je pense que récemment, tu as eu quelques informations un peu dramatiques sur ce qui se passait à Kinshasa.
Ah oui, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup d'émotions et je tremble pour dire ça parce que le 19 septembre soir, ma sœur qui m'a appelée, mais elle ne voulait pas parler beaucoup. Et le 20 septembre soir, c'est moi qui ai rappelé ma sœur. Elle m'a dit que le pays est en guerre, il y a des troubles là-bas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des balles perdues. Donc, c'est triste quand je parle, ça fait mal. Et puis, l'ami de mon frère, il a eu 2 coups de balle. Donc, et maintenant, il est mort. Et les enfants ne partaient pas à l'école, les enseignants ont peur, donc tout était arrêté. Donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Donc du coup, c'est triste, ça ne se fait pas du tout. Donc
la situation c'est pas est normal. Très très compliquée, pas ouais, stable du tout.
C'est pas normal.
Quoi. Ok, donc c'est pas normal.
Oui, c'est une situation encore une fois pour des questions d'abus de pouvoir, quel qu'il soit. Il y a des atteintes aux droits fondamentaux, il y a une dérive et après il y a des crises, etc., etc. Et après il y a des gens qui sont amenés, qui sont dans l'obligation de quitter le pays parce que sinon leur vie est en danger. J'ai lancé quelque chose. Et encore une fois, si les droits humains étaient respectés partout dans le monde, mieux qu'ils ne le sont. Soyons pas trop optimistes, mais mieux qu'ils ne le sont, on n'arriverait pas à des situations comme ça où les gens sont obligés de fuir pour simplement sauver leur vie. Voilà. Donc Jaël est très touché en ce moment. Bon, les dernières informations que tu as eues apparemment étaient un peu meilleures. Les choses ont l'air de se calmer un peu.
Oui, mais
pour l'instant, rien n'est sûr. Et l'opposition continue à réclamer la tenue d'élections normales et démocratiques. Et le gouvernement continue à ne rien faire pour ça.
Et à répondre par la force.
Voilà. Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même des moyens de pression à travers les organisations internationales. La France demande que l'état de droit soit respecté au Congo, etc. L'ONU demande la même chose. Il y a la présence des casques bleus là-bas, Jaël, je crois, qui assure un minimum de sécurité. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et donc, voilà, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais de
et puis,
il y a nous pour
soutenir les mouvements d'opposition comme la Lucha, qui peuvent aussi... Et puis, le faire connaître aussi, le dire.
C'est ça, effectivement. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Et comme on est mis sur Internet après, peut-être qu'un jour, M. Kabila ou quelqu'un d'autre entendra l'émission d'Amnesty Évreux ce soir.
Il aura
peur. Dira qu'on lui aura dit qu'il fallait qu'il respecte sa propre constitution. C'est tout ce qu'on lui demande.
Voilà, tout simplement. C'est la dernière fois. Il n'a plus le droit d'être président. Ben, c'est comme ça. Voilà.
Je pense que j'ai déjà une bonne nouvelle qui a comme un petit lien quand même avec la République démocratique du Congo. Donc, c'est l'Union européenne stoppe à l'utilisation des minerais de sang. Après un an de négociations, les institutions de l'Union européenne, Conseil, Parlement et Commission, se sont mises d'accord pour faire barrage à l'utilisation des minerais de sang. Les importations d'or, d'étain, de tungstène et de tantale seront bientôt soumises à de nouvelles règles contraignantes pour les entreprises qui se trouvent en début de chaîne de production, comme les fonderies et les raffineries. Celles-ci devraient désormais s'assurer que ces 4 minerais que l'on retrouve dans tous les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, les ampoules ou les voitures sont produits de manière responsable. Lorsqu'elles sont extraites illégalement, ces matières premières servent à financer des groupes armés dans des pays en conflit où les droits humains sont bafoués, en particulier justement la République démocratique du Congo. Donc en fin de compte, tous ces minerais servent à financer.
Bien sûr. Si vous étiez présent à la soirée qu'on a fait avec l'homme qui répare les femmes, et Joël était intervenu avec moi tout dans le débat, ça raconte très bien comment effectivement ce genre de dérive amène à des viols de masse de femmes, enfin, etc., avec les exactions qui sont commises. Tout ça pour récupérer de l'argent en faisant du trafic et par rapport à ces minerais. Je rappelle aussi qu'il y a une campagne d'Amnesty qui est en cours, qui est toujours en cours, adressée à 2 fabricants de téléphones portables. On a pris les 2 plus connus, hein, tout simplement, et les autres sont autant concernés. Mais on a pris les 2 plus connus, c'est Apple et Samsung, en leur demandant de faire des enquêtes pour que l'origine du métal qu'il y a dans les...
Ah, c'est en tantale.
Du coltan. Voilà.
Du coltan.
Qui est dans les puces des téléphones portables. La RDC détient 50% des réserves mondiales de coltan. Que l'exploitation de ce minerai se fasse dans des conditions normales en termes de droits humains et en termes de revenus pour les habitants.
Voilà. Si je peux rajouter un petit point un peu écologique, c'est-à-dire... pensez effectivement d'où viennent ces métaux et ne changez pas forcément votre téléphone toutes les 3 minutes. Voilà, arrêtez. Parce que c'est nous qui forçons la consommation aussi. Voilà, oui. Petit point écologique, Edith.
Oui, oui non, mais tu as tout à fait raison. Il rester...
faudrait revenir au tam-tam d'ailleurs.
Peut-être et pas tout à fait.
Tous les non,
à la fumée avec les Indiens et
carrément.
Tout.
Ouais. Je vois Caronan qui est en train de manipuler ses boutons. Je ne sais pas s'il veut qu'on passe à la deuxième pause musicale ou pas. C'était pas prévu comme ça, mais on peut. Hein. On peut. On peut faire la deuxième pause musicale
et
maintenant.
Après, voilà.
Et je vous parlerai après de la campagne réfugiée que je devais vous faire maintenant, mais c'est une bonne idée d'écouter.
Bien que toi, tu le sais, c'est pas grave.
Bien de retour pour la dernière séquence de notre émission. Donc, c'est Amnesty International Évreux, le groupe, pour parler de l'actualité des droits humains. Et on a encore deux ou trois petites choses avant de vous dire avant la fin de l'émission. On vient d'écouter là donc Bruce Springsteen, c'est aussi quelqu'un qui a fait de nombreux concerts de soutien pour Amnesty, hein, qui est très proche de notre mouvement depuis très longtemps. Et le morceau, je l'avais choisi parce que je pensais que c'était quand même un souhait qu'on peut se faire à tous. Le morceau s'appelle Better Days et ça veut dire vers des jours meilleurs. Voilà, des jours meilleurs. Donc on ne peut que se souhaiter ça à tous et entre autres à Jaël et à sa famille, c'est sûr, des jours meilleurs. Voilà, moi je vais vous parler d'une campagne qui commence maintenant. On aura
la chance. Je suis désolé, mais moi j'ai mon coup de gueule à faire.
T'as raison, Ronan.
J'allais
chanter l'intervention de Ronan. Vas-y, Ronan.
C'est ça, coup de gueule. On peut rien faire.
Non, le coup de gueule, tu parleras après.
Oui.
Moi, c'est par rapport à la Grèce. Les États traînent, les réfugiés souffrent. Un an après les engagements visant à accueillir plus de 60 000 demandeurs d'asile se trouvent en Grèce, moins de 6% de ces personnes ont été relocalisées. Bilan et perspective. Il y a un an, les États européens ont fièrement annoncé un plan de solidarité pour les réfugiés. Les milliers de réfugiés qui sont bloqués en Grèce allaient enfin pouvoir reconstruire leur vie dans un pays qui pourrait leur offrir mieux qu'une tente dans un camp. Un an après, 3734 personnes ont pu rejoindre notre pays. Une bonne nouvelle pour eux, mais des milliers restent dans l'attente d'une solution. À ce rythme, cela prendra 18 ans pour que soient respectés les engagements donc, qu'on a fait il y a un an. L'Autriche, la Hongrie et la Pologne n'ont accueilli personne. La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, l'Allemagne, la Slovaquie et l'Espagne ont accueilli moins de 5% de personnes qui se sont engagées de protéger. De plus, le système de relocalisation n'est destiné qu'aux nationalités qui ont un taux de reconnaissance au-dessous de 75%. Les demandeurs d'asile d'Irak et d'Afghanistan sont donc exclus, alors que ces personnes pourraient avoir des réelles craintes de persécution dans leur pays. Une vie affreuse sur le continent. En mars 2016, la frontière entre la Grèce et la Macédoine a été fermée, bloquant ainsi 47 000 réfugiés et migrants sur Grèce continentale. 90% de ces personnes viennent de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan et sont vraisemblablement des réfugiés qui ont le droit d'être protégés. Environ 7 500 de ces 47 000 personnes sont logées dans des logements durs. La grande majorité vit dans une cinquantaine de camps dans des conditions insalubres où beaucoup doivent dormir à même le sol. Personne n'y est épargné, ni les enfants, ni les personnes handicapés ni des personnes âgées. C'est une vie affreuse, l'eau est sale et on n'en a pas assez. Pour 8 personnes, nous avons reçu 3 litres par jour. Or, on nous donne la nourriture, mais les réfugiés se sentent mal. Nous avons besoin de vivre comme des êtres humains. Il n'y a pas de toilettes dans les tentes, pas de médicaments et les gens commencent à désespérer. Nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Voilà mon coup de gueule de...
Eh ben, on est d'accord avec ton coup de gueule.
Parce qu'on avait dit qu'on allait faire quelque chose et en fin de compte, on n'a rien fait.
Ouais, je crois que là, de ce côté-là, l'Europe et les pays...
Si, on va planter des murs, on va monter des murs.
Oui.
On va recommencer la même connerie.
Quand tu dis planter des murs, c'est des murs pour faire de la confiture, j'espère.
Des murs pour faire de la confiture.
J'aimerais mieux qu'on plante des mûriers. Je ne sais même pas comment on dit.
En tout cas, tu as eu raison de me rappeler à l'ordre, parce que dans la chronologie de l'émission, parce qu'effectivement, ça fait un lien direct avec ce que je vais vous dire maintenant. Et Amnesty donc commence une campagne qui va durer au moins 2 ans, qui est une campagne mondiale. Ce n'est pas une campagne qui est limitée stricto sensu à l'Europe, qui est une campagne mondiale. Et la campagne, c'est effectivement pour l'accueil des réfugiés. Le titre de la campagne qui a été choisi, alors c'est en anglais parce que c'est la langue mondiale, c'est
la langue d'Amnesty Londres.
Enfin, c'est la langue internationale.
Pas forcément le français aussi.
Oui.
Hein,
donc, et le nom de la campagne,
qu'est-ce
c'est.
Qu'est-ce que tu penses du breton?
Le nom.
Je connais pas.
Je vais pas arriver à vous parler de la campagne. Hein. C'est mal
parti. Bon, allez, on est sérieux.
Donc, le nom de la campagne, c'est I welcome, c'est-à-dire j'accueille.
Voilà. Bah, on peut le dire en français, hein, ça passe très bien.
Parlons français. Oui, aussi. Donc voilà. On va y revenir parce que c'est une campagne au très long cours.
Didier, il est bilingue.
Et c'est pour ça
il se la pète un peu.
C'est une campagne. C'est bien sûr de finir les micros. C'est une campagne qui est destinée à l'ensemble des gouvernements mondiaux pour les rappeler dans leurs obligations d'accueil des réfugiés. Alors, je crois qu'il est quand même bon de présenter la campagne dans ses grandes lignes, d'expliquer pourquoi, effectivement.
Je te souhaite la bienvenue.
C'est pas possible. Mais elles sont distraites, vous pouvez pas vous imaginer.
Bah, on teste notre anglais.
J'ai décidé, je vais couper 2 micros.
Bon, je vais les laisser terminer parce que là, ça va devenir compliqué.
Vas-y, bon. Didier. En plus, c'est bien ce que tu dis.
Bon, donc pourquoi cette campagne? Alors, Amnesty dit, la grande majorité des réfugiés dans le monde se trouvent dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Les pays les plus riches sont ceux qui accueillent la proportion la plus faible de réfugiés et qui fournissent le moins d'efforts. Les appels à l'aide humanitaire ne parviennent pas à réunir des fonds suffisants. Cette situation est foncièrement inéquitable. La contribution de chaque État au partage des responsabilités en matière de réfugiés devrait être juste et proportionnelle à sa capacité, définie de manière objective, d'accueillir des réfugiés et de leur fournir une assistance. C'est la base des appels lancés par Amnesty International à la communauté internationale. Face à une crise mondiale de cette ampleur, une crise marquée par la mauvaise gestion des mouvements massifs de réfugiés depuis des années, les propositions d'Amnesty International sont axées sur des mécanismes visant à obtenir un véritable partage des responsabilités. Les solutions doivent être à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Nos propositions sont audacieuses mais cohérentes, dans la mesure où elles expliquent comment parvenir à un véritable partage des responsabilités à l'échelle du monde. La campagne d'Amnesty International présente en détail notre analyse et nos commentaires. Alors donc, qu'est-ce qu'Amnesty entend par crise mondiale des réfugiés ? En 2013, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de personnes ayant été contraintes de quitter leur foyer en raison de conflits et de crises a dépassé les 50 millions. Plus de 20 millions d'entre elles sont des réfugiés relevant du mandat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Tout à l'heure, vous avez entendu un témoignage poignant sur les situations en Syrie, et il y a beaucoup de réfugiés syriens, c'est facile de comprendre pourquoi. La hausse du nombre des réfugiés est due aux divers conflits armés et situations d'instabilité politique que connaissent actuellement plusieurs régions du monde. Du fait du conflit en Syrie, comme on disait, plus de 4 millions de personnes sont actuellement réfugiées dans les pays de la région. La Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. La crise au Burundi a poussé hors de leur foyer plus de 214 000 personnes qui ont trouvé asile dans les pays voisins, le Rwanda, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, qui accueille aussi des réfugiés malgré la situation difficile, l'Ouganda et la Zambie. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU estime à 169 000 le nombre de personnes qui fuiront le Burundi en 2016. Si la hausse du nombre des réfugiés est due pour une grande partie au conflit en Syrie, il reste que la crise est un phénomène mondial caractérisé par la présence d'importantes populations de réfugiés dans la plupart des régions du monde. Catalysant l'attention de la communauté internationale, le conflit en Syrie a donné aux organisations de défense des droits humains et d'aide aux réfugiés l'occasion de mettre en lumière, d'y tenter, d'y apporter une solution, la situation de populations de réfugiés plus anciennes. Plus de 5 millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, plus de 2,5 millions de réfugiés afghans, présents pour la plupart au Pakistan et en Iran, plus d'un million de réfugiés somaliens, dont 413 000 au Kenya voisin. Un grand nombre de ces personnes ont quitté leur foyer il y a plus de 10 ans. Dans certains cas, il y a plusieurs dizaines d'années. Alors, pourquoi une crise des réfugiés et pourquoi maintenant ? La crise des réfugiés est une crise du leadership. Les mouvements de réfugiés et de demandeurs d'asile auxquels on assiste depuis quelques années sont importants, mais pas impossibles à gérer s'il existe une volonté politique de le faire. Les pays riches et la communauté internationale dans son ensemble ne sont pas parvenus à un partage équitable des responsabilités dans la gestion des mouvements de réfugiés dans le monde et des besoins de ces personnes. À l'heure actuelle, les pays en développement assument une part de responsabilité disproportionnée, bien souvent parce qu'ils sont tout simplement voisins d'un pays en proie à un conflit. Les pays riches sont en outre loin du compte en ce qui concerne le partage de la charge financière de la crise mondiale des réfugiés. Les appels pour l'aide humanitaire sont systématiquement et parfois largement sous-financés. Cette crise ne se résoudra pas tant que les dirigeants mondiaux ne la prendront pas à bras-le-corps et ne reconnaîtront pas leurs responsabilités et les responsabilités qui leur incombent, ainsi que la nécessité de coopérer et de mettre en œuvre un véritable partage des responsabilités. La communauté internationale doit faire bien davantage que ce qu'elle fait jusqu'à présent. Il faut changer du tout au tout la politique et la pratique actuelle en termes de réfugiés. Alors bon, après, on y reviendra, mais ce que je voulais vous dire pour une présentation générale de la campagne, qu'est-ce que propose Amnesty International, donc encore une fois, dans cette campagne mondiale en s'adressant à l'ensemble des gouvernements de la planète ? Bon, c'est il y a cinq, si je ne me trompe pas, je reprends mon papier, oui, il y a cinq points principaux. Donc, que demande Amnesty ? D'une part, un nouveau mécanisme de réinstallation des réfugiés considérés comme vulnérables au sens des critères établis par le Haut Commissariat des réfugiés. On aura l'occasion de revenir sur qu'est-ce que c'est que la définition de la réinstallation des réfugiés.
Il faudrait déjà une installation première.
Non, mais la réinstallation, c'est effectivement de réinstaller des gens dans un autre pays qui ont déjà fait une demande de réfugiés dans un premier pays, okay. Mais où leurs conditions ne sont pas respectées.
C'est un peu ce que disait Ronan par rapport à la Grèce.
Voilà, c'est ça. on demande que d'autres pays, comme dans l'Europe, les gens qui arrivent en Grèce, effectivement, qu'ils soient réinstallés dans de meilleures conditions.
Voilà, en Europe, il y en a qui veulent absolument qu'on personne, c'est ça. Il y a des pays qui ont dit non. Donc comment faire pour que ces pays changent d'avis ?
La Hongrie a dit non, en bafouant le droit européen, parce que le droit européen, la Constitution européenne reconnaît le droit des réfugiés, le droit d'asile, et donc l'ensemble des pays doivent l'appliquer. Pourtant, la Hongrie a dit non. Voilà. Donc, pour la réinstallation des réfugiés, en vertu duquel tous les pays devraient accepter une proportion de la population mondiale de réfugiés vulnérables. Le quota d'accueil pour chaque pays étant établi sur la base de critères objectifs, reflétant la capacité du pays en matière d'accueil des réfugiés.
Quand j'entends ça, j'entends ce qu'on a déjà dit par rapport à l'Europe qui avait essayé de mettre ça en place. Et tous les États se mettent la tête dans le sable et disent non, surtout pas moi.
Complètement.
Et
Amnesty dit aussi qu'évidemment, il n'est pas question qu'un seul pays ou deux pays ou trois pays, même si on prend le cadre de l'Europe, accueille l'ensemble des gens qui cherchent refuge en Europe. Mais il est question de se répartir en fonction, comme il est dit dans le texte, de définir une capacité du pays en matière d'accueil de réfugiés. Il est évident qu'il faut l'adapter aux possibilités réelles de ce pays, sauf ce qui n'est pas fait non plus à l'heure actuelle.
Parce que tu parles de l'Hongrie, mais il y a l'Autriche, la Pologne aussi.
L'Autriche n'a pas refusé de réfugiés, elle a fermé des frontières.
Oui,
il y a plein de frontières dans l'Europe qui sont fermées à l'heure actuelle.
Bah, c'est cool. C'est pareil quand même, tu fermes les frontières.
L'Italie a fermé ses frontières aussi.
Et la Pologne n'en a pris aucun non plus.
Bon, voilà. Bon, je voulais vous terminer parce que l'émission avance. Vous finir donc les cinq points.
Ils font des sommets de temps en temps qui donnent pas grand chose.
Non, ils viennent d'en faire. Oui, effectivement, on voulait vous en parler. On va manquer un peu de temps.
Le 19.
Mais on voulait vous parler de l'échec, de l'échec du sommet qui vient de se tenir à l'ONU. Voilà. Vous en avez parlé avant les vacances. On a fait la campagne cet été, mais ça n'a abouti sur rien à part quelques grandes déclarations de principe. Chacun encore une fois se renvoyant la balle. C'est pas moi, c'est l'autre.
Ils vont peut-être faire un pacte, mais pas avant 2018. Ouais. Et puis ils essayent de vider tous les textes des États. La difficulté de cette campagne, et là on aura vraiment du travail nous et vous, c'est-à-dire il faut vraiment aller contre la volonté des États de ne rien faire.
Voilà. Bon, je termine quand même les 5 points avec et par Amnesty. Donc le deuxième point, c'est un nouveau mécanisme mondial de transfert des réfugiés par lequel seraient transférées des personnes présentes dans des pays où la population des réfugiés a atteint un certain plafond. Indicateur de la capacité maximale d'accueil, celui-ci serait défini sur la base de critères objectifs reflétant la capacité d'un pays en matière d'accueil. Ce mécanisme est distinct du mécanisme de réinstallation des réfugiés vulnérables et fonctionne en complément de celui-ci. Pardon. La garantie d'un financement total, ça c'est important, souple et prévisible permettant la protection des réfugiés et un soutien financier important aux pays qui accueillent un grand nombre d'entre eux. Quatrième point, un renforcement des systèmes de détermination du statut de réfugié. Jalé, qui est à côté de moi, connaît bien ce statut de réfugié. Et un recours accru à la reconnaissance, alors c'est marqué prima facie, ça veut dire dès la première fois, de ce statut. Des politiques, dernier point, des politiques et des systèmes garantissant la protection efficace des réfugiés et des demandeurs d'asile et permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires dans le respect de leurs droits humains et de la dignité de la personne. Voilà, parce que cette campagne mondiale qui va durer au moins 2 ans et qui va interpeller constamment, on va vous en reparler régulièrement.
Parce que là, on n'est vraiment pas dans ça tout de suite.
Il va interpeller régulièrement l'ensemble des gouvernants de la planète. Donc, on a beaucoup de travail et on compte sur vous.
Venez avec nous, voilà, parce qu'il va falloir vraiment faire de la pression.
Voilà. Bon, ben, on est parvenu presque au terme de l'émission. Il nous reste 2 minutes. On a encore un peu de temps. Il nous reste 2 minutes.
Oh, allez, moi, vite fait.
Une dernière bonne nouvelle. Terminons sur un point positif.
Une dernière bonne nouvelle, c'est une preuve que les actions urgentes, ça marche.
Ah.
Ah oui. Le 3 août, Constantin Zabioia, excusez-moi pour sa prononciation.
Ouais, c'est pour Constantin,
a pu quitter un hôpital psychiatrique de, c'est pas mieux, Novosibirsk.
C'est dans quel pays?
C'est en Sibérie, donc je pense que c'est
chez nos amis. Russe, c'est Poutine.
Voilà.
Renan, il faudrait que tu prennes des cours de russe. Hein.
Ah ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est bafoué. Bon, ouais. Bon, passons. Donc, il a quitté l'hôpital psychiatrique dans l'ouest de la Sibérie. Il était interné depuis le 7 juillet et il recevait un traitement de force sur la base d'une décision de justice qui porte atteinte à son droit à un procès équitable. Sa libération a eu lieu après que l'hôpital a reçu des dizaines de lettres de militants. Après la diffusion d'une action urgente en sa faveur le 19 juillet, l'hôpital a commencé à recevoir des lettres de militants du monde entier. Et le médecin-chef a contacté la mère de Constantin Zadouya, l'accusant d'essayer de provoquer un scandale politique. Donc vous voyez,
ça
les lettres,
marche,
ça marche.
D'écrire.
Constantin Zadouya a été relâché le 3 août après avoir signé une déclaration indiquant qu'il avait été hospitalisé de son plein gré, bien sûr, et qui s'est désisterait de son appel contre la décision de justice. Une fois relâché, Constantin a de nouveau interjeté l'appel. Il va continuer à faire appel contre son internement légal dans cet hôpital psychiatrique. Et ce qui est important aussi, c'est que son avocate a dit à Amnesty International que l'action urgente avait protégé la santé du jeune homme. Elle a également déclaré je suis horrifié par ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas agi.
Super.
On vous annonce quand même les deux prochaines émissions de radio. Hein. Donc c'est
dans
le 15
jours
c'est
et
quand
après, dans 15 jours.
Voilà, c'est ça.
Ça fait
non,
ça. Ça fait dans un mois.
Non, j'ai noté les dates quand même. Prochaine émission de radio le 11, mardi 11, 19h. Et la suivante, le mardi 25 octobre, 19h toujours. À bientôt.
Sortez d'oublier les personnes dont les droits sont bafoués.